Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Le président américain met un terme aux négociations avec les talibans, négociations pourtant fertiles, correspondance de Kaboul de Sonia Ghezali et témoignage dans la face cachée du globe de Shekeba Hashmi, présidente de l'association Afghanistan Libre. Nabila Amel qui dans la face cachée s'intéresse également au premier anniversaire de la dépénalisation de l'homosexualité en Inde. Le chef de la diplomatie française fait acte de fermeté dans le dossier du Brexit, Jean-Yves Le Drian, écarte toute renégociation. Pour le moment, précision d'Ilan Malcam. Également au sommaire, les élections locales en Russie. Claude Broyot s'attardera sur le vote ce matin de Vladimir Poutine à l'Académie des sciences de Moscou. Et enfin, une polémique sur le port du voile à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Reportage signé William Delessieux. Les accords de Camp David, symbolique lourde pour inscrire dans le cours de l'histoire un texte susceptible de sceller la paix en Afghanistan. Camp David dans le Maryland où étaient attendus de hauts responsables talibans et des négociateurs américains de premier rang pour y signer un accord issu de longs mois de négociations, principalement menées à Doha au Qatar. Donald Trump a d'un coup claqué la porte. Nous sommes comme convenu en ligne de Kaboul. Nous avons joint il y a quelques instants à Kaboul Sonia Ghezali de RFI. Première question, quelles sont les premières réactions du gouvernement afghan ?
Eh bien, c'est la surprise. Certains se disent même sous le choc. Personne ne s'attendait vraiment à ce revirement de situation. Cela fait 10 mois que ces discussions entre Américains et Talibans ont lieu et jamais les Talibans n'ont cessé leurs attaques. Au contraire, ils les ont même intensifiées à Kaboul et en province. Quand il y a quelques jours, les Américains ont annoncé être parvenus à un accord de principe avec les Talibans pour un retrait des troupes étrangères contre la garantie par les insurgés que le pays ne se transforme pas en refuge pour les groupes terroristes, eh bien, les autorités afghanes avaient exprimé leur profonde inquiétude. Ce matin, elles disent leur soulagement. Une paix sincère sera possible quand les talibans cesseront de tuer des Afghans, quand ils accepteront un cessez-le-feu et des négociations directes avec le gouvernement afghan. C'est la réaction du palais présidentiel dans un communiqué. Le gouvernement ajoute que son objectif est l'organisation du scrutin présidentiel du 28 septembre prochain. Le seul moyen, dit-il, pour un pouvoir fort qui pourra avancer dans des négociations avec les talibans.
Seconde interrogation, Sonia Ghezali, à quoi s'attendre après cette volte-face du président américain?
Plus de violence, sans aucun doute. C'est ce que disent plusieurs sources sécuritaires afghanes et étrangères ici en Afghanistan. Les talibans sont contre les élections car ils estiment que le pouvoir en place est illégitime et qu'il est une marionnette entre les mains des Américains. Une explosion a eu lieu d'ailleurs ce matin à Jalalabad, dans l'est du pays, près d'un bureau de campagne du président Ashraf Ghani, candidat à sa propre succession. Le ton est donné depuis le début de la campagne. Les bureaux de vote, les QG de campagne, les rassemblements politiques ont toujours été des cibles pour les talibans. Plusieurs analystes soulignent aujourd'hui également la naïveté du président américain et de son émissaire pour la paix en Afghanistan. Comment ont-ils pu songer négocier une paix sans exiger avant toute chose comme condition la fin des violences? Ce processus de paix était voué à l'échec dès le départ, estiment ses analystes et ses observateurs internationaux.
Sonia Ghezali de RFI à Kaboul, l'Afghanistan. Il en sera également question à la fin de cette édition dans la face cachée du globe. Remaniement majeur au sein du royaume saoudien. Le prince héritier nomme l'un de ses fils au poste de ministre de l'énergie. Abdulaziz Ben Salman est ainsi chargé d'incarner et de préparer l'entrée en bourse du géant public pétrolier Aramco, lui qui est de toutes les réunions de l'OPEP depuis des décennies. Prochain conclave la semaine prochaine à Abu Dhabi. Le directeur général par intérim de l'AIEA est lui arrivé ce matin à Téhéran. Cornel Ferruta a pris langue avec de hauts responsables, dont le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, et ce, au lendemain de l'activation de centrifugeuses non conformes aux dispositions de l'accord sur le nucléaire de 2015. Les voix du dialogue sont toujours ouvertes avec l'Iran, déclare ce matin le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian, qui chez nos confrères d'Europe 1 s'est montré par contre beaucoup plus vif et catégorique s'agissant du Brexit, au terme d'une semaine pénible pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a dû prendre acte hier soir de la démission de la ministre du Travail Amber Rudd. Bonjour Ilan Malcam.
Bonjour Mathieu.
Ilan, Jean-Yves Le Drian, pour résumer, dit très simplement « no deal anymore ».
Oui, il réagit à cette cette semaine particulièrement difficile pour Boris Johnson. Alors on rappelle tout d'abord que mardi, le Premier ministre britannique a perdu sa majorité parlementaire. Mercredi, les députés ont voté contre lui. Ils ont adopté un texte qui vise à empêcher un Brexit sans accord, alors que Boris Johnson souhaitait, lui, quitter l'UE le 31 octobre, quoi qu'il arrive. La situation ne se simplifie donc pas, bien au contraire. Et ce matin, le chef de la diplomatie française a réagi sur le sujet chez nos confrères d'Europe 1, Jean-Yves Le Drian.
Nous ne souhaitions pas qu'ils sortent de l'Union européenne. Ils ont décidé de le faire. Dites-nous, chers amis britanniques, comment vous voulez faire pour qu'on puisse vous aider à le faire. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, puisqu'il n'y a pas de majorité sur aucune des options. Il n'y a pas de majorité pour l'accord de retrait. Il n'y a pas de majorité pour aller aux élections. Il n'y a pas de majorité pour le non-deal.
Il y a un Premier ministre qui s'appelle Boris Johnson.
Il n'y a pas de majorité pour rien.
Le seul point d'accord qui réunit les députés britanniques pour le moment vise à demander un nouveau report du Brexit s'il n'y a pas d'accord. Mais, il faut bien le dire, leur volonté ne fera pas loi en la matière. Ce report, l'Union européenne doit elle aussi l'accepter à l'unanimité des États membres pour qu'il ait lieu. L'UE est-elle prête à le faire? Réponse claire et nette de Jean-Yves Le Drian.
Dans l'état actuel des choses, sinon. Puisqu'ils disent qu'ils veulent proposer d'autres solutions alternatives, des arrangements alternatifs pour assurer le retrait et assurer le no deal, nous ne les aurons pas vus, donc c'est non, on va pas recommencer tous les trois mois.
Rappelons que le Brexit, initialement prévu le 29 mars, a déjà été repoussé deux fois depuis.
Merci à vous, Ilan Malka. Les élections locales russes, sans les candidats de l'opposition à un mandat au Parlement local de Moscou. Moscou, théâtre de quantité de manifestations depuis le début de l'été et de répression, 2700 interpellations. L'opposant Alexei Navalny a appelé les moscovites à, je cite, « voter intelligemment ». Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Mathieu.
Claude, en direct de Moscou, Vladimir Poutine a voté, lui aussi, pour un énigmatique candidat, n'est-ce pas Claude?
Alors oui, le président russe a voté dans un bureau installé dans les locaux de l'Académie des sciences de Russie à Moscou, l'un des 3600 bureaux de vote de la capitale. Au sortir de l'enceinte, Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne connaissait pas personnellement le candidat pour lequel il a voté, ajoutant simplement qu'il espérait que l'intéressé, je cite, était un homme bon et honnête, en précisant que ce n'était pas le nombre de candidats qui comptait, mais leur qualité. Pas de référence directe, en revanche, au parti majoritaire qui soutient le président, en l'occurrence Russie Unie, en perte de vitesse depuis 2018, et la très critiquée réforme des retraites. Nombre de ces candidats pro-Kremlin ont d'ailleurs choisi d'éviter de s'afficher sous l'étiquette de cette formation, prise en étau par la double stratégie des opposants au pouvoir, car d'un côté, il y aura le boycott aujourd'hui des uns pour délégitimer les scrutins, et de l'autre, l'appel au vote dit intelligent pour privilégier cette fois les candidats dont les positions sont les plus éloignées possibles de celles du Kremlin, en tous les cas écartées en beaucoup d'endroits de ces élections locales. L'opposition russe non parlementaire a fait le pari que les représentants du pouvoir seraient soit battus, soit tellement affaiblis qu'il serait impossible alors pour le Kremlin d'ignorer ces tendances. À Moscou, Alexei Navalny, opposant numéro 1, on le sait, à Vladimir Poutine, est allé jusqu'à diffuser sur les réseaux sociaux la liste des candidats communistes et socio-révolutionnaires sur lesquels il appelle tous les mécontents à reporter leur suffrage.
Merci à vous, Claude Brouillot, en direct de Moscou. Au Sénégal, polémique en pleine rentrée scolaire. Un établissement catholique réputé de Dakar a décidé d'appliquer un nouveau règlement intérieur. Le voile est désormais interdit dans les murs de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Des élèves voilés ont été mis à l'écart par la direction. Colère de plusieurs parents d'élèves. Le débat enflamme maintenant la presse dans un pays à 95% musulman. C'est un reportage à Dakar de William Delessu.
Sainte-Jeanne d'Arc, près de 2000 élèves, c'est une institution à Dakar. Devant le large fronton de l'établissement, Marianne Weder, en première, porte un voile blanc dans les cheveux. Le jour de la rentrée, la direction lui interdit d'aller en classe, comme à une vingtaine de ses camarades.
Et ils nous ont ramenés dans une salle avec toutes les voilées qui étaient là depuis le matin. On ne savait pas ce qu'on avait fait. Je me sentais rejetée, rabaissée par mon école, ma seconde famille, qui m'a rejetée pour qui je suis. On ne va pas céder, on ne va pas baisser les bras, parce que je fais tout ça, je fais tout ce combat pour ma religion qui est l'islam.
Véronique Sey préside l'association des parents d'élèves.
Ces enfants font partie de cet établissement, ils y sont depuis très longtemps. On ne peut pas hypothéquer leur avenir comme ça, de cette manière. On aurait pu trouver une solution très simple, une solution de paix.
La direction assure avoir prévenu les parents dès le mois de mai. Une décision critiquée par le ministère de l'Éducation nationale. Bakary Samb, chercheur et directeur du Timbuktu Institute.
Il est vrai que le Sénégal est laïque à sa manière, différemment de la laïcité française qui a été une laïcité de combat, alors que pour ce qui est du Sénégal, c'est une laïcité de consensus et de cohésion sociale. Tous les régimes au Sénégal sont tous passés comme une patate chaude de la question éducative et n'ont jamais voulu unifier le système éducatif autour d'un seul projet.
Plusieurs élèves voilés cherchent maintenant un nouvel établissement. Certains parents évoquent de futures actions judiciaires contre l'Institut Jeanne d'Arc.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. L'Estonie a décidé cette semaine de porter son dispositif militaire au sein de la force Barkhane de 50 à 95 hommes. Tallinn affirme ainsi répondre à une demande de Paris adressée à d'autres pays, y compris des pays nordiques. Le contingent estonien au Mali est déployé dans la région de Gao. Le Soudan est officiellement revenu hier dans le giron de l'Union africaine après en avoir été suspendu en juin dernier. Une décision rendue possible depuis la mise en place à la mi-août d'institutions devant mener à un pouvoir civil. Après un long règne autoritaire de l'ancien président Omar el-Bashir, la transition semble bien partie et un nouveau gouvernement a été installé jeudi. Si l'Espagne se dit toujours dépassée par la présence de migrants marocains mineurs ces dernières années, le ministère de l'Intérieur espagnol constate que depuis 2018, les flux en provenance du Maroc ont diminué de 45%, une tendance qui serait liée à la signature par Rabat d'accords assortis d'aide avec Bruxelles et Madrid. Nous en avons parlé en début de journal. La suspension des pourparlers entre les États-Unis et leurs ennemis d'hier, les talibans, a donc été annoncée cette nuit. Mais en guise de piqûre de rappel sur ce qu'était l'Afghanistan au temps des talibans, je vous propose d'écouter Shekeba Hashmi. Elle avait fondé l'association Afghanistan Libre en 1996, alors qu'ils étaient au pouvoir à Kaboul. Elle militait pour l'éducation et la scolarisation des filles. Je précise que je l'ai contactée avant l'annonce de cette suspension et elle me faisait part donc de l'inquiétude des jeunes et des femmes suspendues pendant des mois à ce qui se disait justement dans les médias à propos de ces pourparlers dits de paix.
Il y a les attentats les plus meurtriers ces dernières semaines en Afghanistan, jusqu'à ce que les Nations Unies placent l'Afghanistan aujourd'hui le pays où il y a plus de civils tués dans les attentats depuis plusieurs années dans le monde. 20 ans après la prise de conscience de la communauté internationale qu'il fallait sauver l'Afghanistan de régimes les plus terribles que connaisse l'humanité, on oublie pourquoi on est allé en Afghanistan, parce qu'au milieu il y a eu des centaines de milliers de victimes. Et puis surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que entre 2001 et 2019, il y a eu quand même des fenêtres d'espoir, il y a eu des femmes éduquées, il y a eu des écoles. Nous, ne serait-ce qu'Afghanistan Libre, on a donné accès à 300 000 petites filles, qui sont des jeunes filles, des bachelières, des sages-femmes, des médecins, qui ont été éduquées. Aujourd'hui, même des classes digitales où elles apprennent le coding et l'informatique. Donc, ouvertes vers le monde, elles vont vivre le même régime qu'en 96, quand les talibans sont arrivés et qu'elles ont été dans leur maison enfermées, tuées, sacrifiées dans le stade de Kaboul devant tout le monde parce qu'elles avaient fait des écoles clandestines ou tout simplement parce qu'elles étaient allées se faire soigner à l'hôpital seules. Et donc là, on va revenir en arrière. Mais c'est juste inacceptable.
Shekeba Hashmi de l'association Afghanistan Libre qui a dû être soulagée ce matin d'apprendre la suspension des pourparlers entre Américains et talibans. Le vendredi 6 septembre 2018, l'Inde a dépénalisé l'homosexualité. Un an après, cette décision a permis de mettre fin au harcèlement de la police. Les personnes LGBT peuvent maintenant afficher leur orientation dans la rue, mais ce changement d'état d'esprit est parfois plus difficile à mettre en place au sein des familles. Pour faciliter ce dialogue, un militant a lancé une série de portraits sur Internet montrant des familles qui ont accepté l'orientation de leurs proches. C'est une correspondance de Sébastien Farcy à New Delhi.
Ses cheveux sont gris, son regard fuyant. Vina a plus de 70 ans et elle avoue qu'elle a eu du mal à accepter l'homosexualité de son fils, Abhijit.
Quand j'ai dû l'annoncer à notre famille et à nos amis, cela nous a rendus très tristes. On se demandait ce qu'il allait devenir. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il était heureux comme cela. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter son choix.
Une autre famille présentée dans ces documentaires a adopté une personne transgenre qui vit maintenant avec eux. Suhani, une jeune adolescente de la famille, a trouvé sa manière pour décrire sa sœur adoptive.
Il arrive parfois que Dieu enferme l'âme d'une femme dans un corps d'homme ou l'âme d'un homme dans le corps d'une femme.
Monish Malhotra, un militant LGBT, a ainsi filmé 5 portraits de familles particulières, comme il les appelle. Ces histoires vont maintenant être diffusées sur Internet pour qu'elles touchent les Indiens de toutes les couches sociales.
Pendant des années, cette loi était comme un monstre qui harcelait la communauté LGBT. Maintenant que ces relations sont dépénalisées, les familles commencent à en parler plus librement. Ces portraits peuvent servir d'inspiration pour les autres familles qui font face aux mêmes questions.
Le 20 mai dernier, le Times of India, le plus grand quotidien anglophone du pays, a créé une section LGBT dans ses annonces matrimoniales, un pas de plus vers l'inclusion de cette communauté dans le cadre familial indien.